C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on le répète depuis hier, je dirais. La campagne électorale est officiellement lancée avec le discours hier de François Legault. Alors, cher commissaire, on vous écoute ce matin sur vos réactions à ce discours du premier ministre.
Bon, ben, ça va commencer, OK.
Vas-y.
Ça fait que des grosses nouvelles.
Ça sent les élections, Luc.
Une liste d'épicerie, c'était long en Simonac. Mais bon, là-dedans, il y avait des choses nouvelles et surprenantes. Renouveler la convention collective des infirmières. C'est pas rien, ça, ils viennent de la signer. Fait que là, donc, ça appelle une modification fondamentale dans l'organisation du travail. Après ça, d'aller chercher 100 000 nouveaux travailleurs en construction, en ingénierie, en technologie d'information, de transférer en région, de décentraliser donc le réseau de la santé, mais aussi de transférer en région des milliers d'emplois de la fonction publique grâce au télétravail. C'est quand même... Non, mais hein, c'est des grosses nouvelles. Lui, il dit qu'il est capable de faire tout ça parce que il a appris pendant la pandémie que les Québécois étaient prêts au changement. Donc, c'est vrai que il s'est fait des choses pendant la pandémie, notamment l'embauche des PAB, les préposés aux bénéficiaires, 9 400 personnes formées, etc. Je pense qu'il a aimé les décrets là, qui lui permettaient de tirer...
L'urgence sanitaire qui s'étire un petit peu.
Il lui permet de faire des choses, mais lui, il dit que le Québec et les Québécois ont démontré qu'ils étaient capables de faire des choses, d'apprendre, et donc, ça permet de mettre des gros projets comme ça sur la table. On peut se demander si ça va marcher, parce que il n'a pas donné beaucoup de détails. Il a juste dit « on va le faire ». Fait que des trucs « on va le faire », il avait dit qu'il ferait des places en garderie, on les attend, on va le faire. Mais bon, il y a des choses qu'il a faites, et il s'appuie sur cette nouvelle expérience de la pandémie pour dire « ça va se faire ». Alors, il termine en disant « un Québec plus riche, des Québécois plus riches, c'est un Québec qui gagne ». Donc, c'est quand même le bon vieux M. Legault qui s'appuie sur l'enrichissement des Québécois, qui évite au passage complètement deux gros sujets, la pauvreté et le logement. Rien dans son discours là-dessus.
Moi, je dirais que c'est un plan ambitieux, mais qui manque un peu d'audace. Pour moi, il y a une différence entre l'ambition et l'audace. Ambitieux, 37 000 places en CPA. On veut accélérer la construction de 37 000 places. C'est pas rien. On veut requalifier 100 000 emplois dans le secteur de la construction, des technologies de l'information, du génie. Taux de diplomation secondaire qu'on veut faire 90. Passer de 82 à 90. Ça, c'est il y a énormément d'ambition. Là où on manque d'audace, selon moi, c'est lorsque le premier ministre affirme qu'il veut créer une banque de dépannage pour éviter de recourir aux agences privées. Mais je me dis, non, il faut s'attaquer à la cause. La cause, c'est le travail supplémentaire obligatoire. Alors, plutôt que s'attaquer à la cause, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont peut-être créer une autre structure pour éviter de recourir aux agences. Ça, selon moi, ça manque d'audace. L'autre chose, on veut positionner le gouvernement de la CAQ comme le gouvernement des régions en décentralisant les emplois des fonctionnaires
en région.
Ah non, mais écoute, quand j'ai entendu ça, je vous jure, j'ai dit, ben voyons, je peux pas croire. Ça doit faire 50 ans qu'on parle de ça, de la décentralisation. C'est plus facile pour un saumon de remonter le Saint-Laurent que d'envoyer un fonctionnaire à Gaspé. Non, mais vous dire à quel point...
Non, mais avec l'Internet haute vitesse, ça va être correct.
Paul.
Y a-t-il un local pour mettre un gros ministère à Marriott?
Oui, on a bien de la place en masse. Non, mais pour vous dire, je trouvais que ça sentait le réchauffer. Mais pour ce faire, il va devoir non pas envoyer un fonctionnaire de Québec ou de Montréal à Gaspé, mais il va devoir ouvrir des postes en région. Et ça veut dire ben des bidous, ça, les amis. Beaucoup de bidous. Alors ça, il nous a pas donné de détails. Médecin de famille, lorsque je vous dis que ça manque d'audace, ben, il a évoqué la méthode du docteur Barrette, c'est-à-dire on sort le bâton. Alors que le docteur Godin, qui représente les médecins omnipraticiens, nous dit c'est pas la bonne solution. Puis il y a 25%, non, c'est-tu un médecin sur quatre? Je pense que oui, effectivement. Médecin de famille, oui, qui est sur le point de prendre sa retraite.
1 700.
Voilà. Alors, c'est énormément de monde. Ça, le gouvernement, François Legault, était complètement silencieux sur cette réalité qui existe. Il faut composer avec le fait qu'il y a énormément de médecins, de familles qui vont partir à la retraite. Est-ce que la politique du bâton, c'est la bonne? Je questionne. Cependant, il y a eu des bons coups de la part de ce gouvernement depuis 3 ans. Les 10 000 préposés embauchés, là, en pleine pandémie, ça, vraiment, il y a de quoi être fier. Mettre en place la plateforme Je contribue, qui va durer. Même chose, lorsqu'il a dit, à abaisser les tarifs à 8,50 $ pour les garderies, le salaire des enseignants qui a été rehaussé, 2,3 milliards de plus dans nos poches par année, nous a-t-il dit.
Oui.
C'est de l'argent, ça. En as-tu plus dans tes poches, Luc?
Pas ce matin.
Non, c'est ça, pas ce matin. Non, mais c'est intéressant. Mais en même temps, Michel Girard, Journal de Montréal, chroniqueur économique, écrit ce matin, ah oui, peut-être 2,3 milliards de plus dans nos poches, mais ils sont venus nous en chercher en taxes et impôts, 10,3 milliards depuis 3 ans. Mais c'est un gouvernement, clairement, qui est en mode électoral, puis 1 an, c'est court, très, très court. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, mais pas, oui, ambitieux, mais pas audacieux. Audacieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir, penser en dehors de la boîte,
attends,
compte tenu des
vrai,
défis qu'on a relevés.
C'est vrai qu'il n'est pas audacieux, mais c'est
mais
comme
il,
un vin nouveau.
Il manque
nouveau,
un peu d'audace, je veux dire, sur
moi, je trouve qu'il faut le boire frais, parce que c'est le
il
nouveau
le
goût. C'est le nouveau le goût, parce que Legault, il s'est pas fait élire là-dessus. Rappelez-vous, là, Legault, quand il s'est présenté, il avait dit que il allait réduire la taille de l'État, il allait mettre à pas la bureaucratie, etc. Et là, il s'est découvert pendant la pandémie une capacité de dépenser et de le faire pour des bonnes raisons, il faut dire.
Oui.
Et là, il veut continuer sa même lancée. Fait que c'est ça son programme. Je vais donner plus d'argent aux infirmières, je vais donner plus d'argent aux préposés aux bénéficiaires, je vais donner plus d'argent en éducation, etc. Et on va continuer, on va continuer sur cette lancée-là. On va se donner, on va aller engager 100 000 nouvelles personnes pour le secteur public. 100 000 personnes. C'est pas sûr que ça va marcher tout le temps, moi.
Mais tu vois, Luc, il va peut-être devenir François Legault, son gouvernement, vont peut-être devenir le gouvernement le plus dépensier de l'histoire. Parce que moi, je suis absolument ébahie de voir, puis c'est bien que tu soulignes cet aspect-là, la capacité qu'a le gouvernement d'engager des dépenses, là, puis pas des petites dépenses, là, de grosses dépenses. La réduction de la taxe scolaire, c'est c'est quoi? C'est 800 millions bon, par année. Ça, c'est récurrent. Ça revient d'année en année. Et parallèlement à ça, tu as un déficit structurel de 6,5 milliards de dollars qui s'ajoute au déficit là, année après année. Alors, tantôt, là, je sais pas, là, mais soit que M. Legault a un coffre-fort caché en quelque part, puis...
Il a appelé Justin Trudeau, il dit, c'est quoi ta méthode?
Exactement.
Non, mais lui, il imprime pas de l'argent. La machine d'imprimer de l'argent est à Ottawa. Bon. Mais regarde, pour mettre en perspective la réduction de la taxe scolaire, là,
oui.
C'est à peu près l'équivalent que les profits qu'Hydro-Québec va faire avec ses 2 contrats majeurs historiques aux États-Unis. 1,5 milliard chacun.
Mais
fait qu'il l'a dépensé en réduction de taxe scolaire qui a donné à rien.
Ah, je dis pas que ça a pas donné rien.
Moi, je dis que ça a donné à rien.
Ben, moi, je dis que ça a donné quelque chose parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont vu leur compte de taxe scolaire soulagé de 200-300 $.
Ça s'achetait un Winnebago avec ça.
Ben, ce que je reproche à cette mesure, c'est que ça crée de l'iniquité parce que la personne qui a une maison qui vaut, je sais pas, 1 million, puis qui vit avec une réduction de la taxe scolaire, elle a le moyen de payer son compte de taxe scolaire.
Voilà.
Par contre,
oui.
La personne qui a un bungalow à 200 000, c'est sûr que ça lui fait énormément de bien sa réduction de taxes scolaires. Ça, c'est inéquitable
mais
comme mesure.
Mais pensez pas aussi qu'il y a 2 aspects qui ont été effleurés, disons. Tu sais, je comprends la main d'œuvre et tout ça, mais moi, je regarde la réalité démographique du Québec, là.
Parce que,
mais,
voilà.
Tu sais, puis Jolin Barrette, quand la CAQ a pris le pouvoir, là, c'était pas entre les lignes, là, c'est, faut réduire le nombre d'immigrants.
Mais c'est pour ça que je disais tantôt, monsieur Legault, un trou, une cheville, tu sais, il manque du monde, j'en rajoute, il manque du monde, j'en rajoute. Mais sur la profondeur des dossiers, là, il va vite en maudit. La démographie, l'immigration, l'environnement, la lutte à la pauvreté, le logement, le manque de logement,
tu sais, un rapport ce matin qui dit, fédéral va pas atteindre sa cible. Connais-tu un gouvernement au Canada qui a atteint sa cible, toi?
Non, puis surtout quand tu joues aux cartes avec juste une carte, t'as pas beaucoup de chances de gagner la game. Hein? Puis Monsieur Legault, lui, avec l'environnement, il y a une carte dans ses mains, l'électrification, that's it. Et puis c'est pas la bonne carte.
Ben l'immigration, c'est un autre exemple parce que le gouvernement persiste et signe en disant il est pas question qu'on accueille davantage d'immigrants. D'ailleurs, au prorata, on est l'endroit en Amérique du Nord où on en accueille le plus. Mais il me semble que c'est une réponse facile. Pour ils évacuent en fait une partie de la solution. C'est vrai que l'immigration, ça réglera pas tous les problèmes.
Non.
Mais ce qui me fâche, c'est de savoir que le gouvernement est en recrutement intensif à l'étranger pour aller chercher 4000 infirmières. Puis lorsque les infirmières arrivent au Québec, ben la première chose qu'elles se font dire, c'est « Ah, t'auras pas de poste à temps plein. »
2 à 5 ans.
Exactement. Puis ça devient... Là, tu sais, on les séduit, mais lorsqu'elles arrivent ici, ça devient drôlement compliqué d'exercer son métier.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va parler justement des dépenses, le panier d'épicerie qui coûte plus cher, le litre d'essence qui coûte plus cher, puis les tarifs de Hydro-Québec qui vont augmenter.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, quiconque regarde un peu le coût de la vie... Le niveau d'inflation, on s'aperçoit que le panier d'épicerie coûte plus cher, le litre d'essence coûte plus cher. On voit également que dans les restaurants, au-delà de la facture disons conventionnelle, ça a augmenté beaucoup parce que pénurie de main-d'œuvre. Là, Hydro-Québec va nous augmenter, dit-on, au niveau de l'inflation. Ça tombe bien, l'inflation est à la hausse. Est-ce que c'est la goutte qui fait déborder, là, parce que là, les gens regardent ça et disent « Wow, là, on a une capacité de payer qui est quand même limitée. »
Oui, moi, je dirais que oui. Pour beaucoup de, pour plusieurs ménages, la réponse, c'est oui. Je regardais les données, là. Depuis avril, là, on a des taux d'inflation au-dessus de 3 % Et depuis le début des années 2000, là, selon les données de la Banque du Canada, c'est la première fois que le taux d'inflation est au-dessus de 3 % mais de manière quatre mois consécutifs. Oui, la facture d'hydro, il y a un symbole derrière ça. D'ailleurs, j'ai réagi lorsque le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a dit « Vous savez, il faut pas se mêler de ça. Il faut pas que la politique se mêle des tarifs d'hydro. » Ben, c'est exactement ce que le gouvernement a fait en soustrayant en soustrayant Hydro-Québec de l'autorité de la Régie de l'énergie. Avant la création de la Régie de l'énergie, petit cours d'histoire rapide, là, au milieu des années 90, les parlementaires, c'est eux qui décidaient à quel montant les comptes d'hydro allaient augmenter. C'était très compliqué pour
les parlementaires. Cette année, c'est les élections, zéro.
Il y a eu des gels de quelques années, puis après ça, des augmentations au-delà de l'inflation.
On a créé la régie, justement, pour avoir un processus plus indépendant, plus impartial, évidemment, apolitique. Alors là, le gouvernement fait exactement le contraire de ce qu'on fait depuis des années. Il dit, on va plafonner à l'inflation. Le problème, c'est que la régie d'énergie, et c'est arrivé dans l'histoire, établisse une augmentation en deçà de l'inflation. Ça, c'est une chose. L'autre chose, le gouvernement nous dit hier, M. Legault, ben, on est en train de se pencher au ministère des Finances comment on peut aider effectivement les ménages, les couples qui reçoivent la sécurité de la vieillesse, comment on peut les aider davantage à faire face à toutes ces augmentations. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils peuvent peut-être s'inspirer de ce qui s'est fait en France. En France, on envoie un chèque pour combler, en fait, pour assumer l'augmentation des coûts de l'énergie. Et dans certaines régions de la France, entre autres en Hauts-de-France, on envoie un chèque carburant pour faire face à l'augmentation des prix. C'est minime, là, c'est 20 euros par mois pour le carburant, mais pour l'énergie, c'est un peu plus élevé que ça. Ça fait une différence et ça envoie le message que le gouvernement est à l'écoute du désespoir de plusieurs familles là, qui, je vous dis actuellement, là, en arrachent, là, vraiment pour qui c'est difficile.
Bon, ben écoute, il y a des familles qui en arrachent. Il y a un pourcentage des familles qui ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité. Puis pour ces gens-là, il faut trouver des solutions. Mais il y a aussi le reste des Québécois qui en arrachent pas. Et puis l'électricité, ça a ce site particulier que plus le prix est bas, plus t'en consommes. Pour bien des Québécois, l'électricité est un produit de luxe. C'est-à-dire que ça a permis d'avoir des maisons plus grandes sans se poser de questions. Est-ce que je vais agrandir ma maison? Non, je peux pas, ça coûte trop cher l'électricité. Quand est-ce que vous avez entendu ça? Jamais. Moi, je peux pas m'acheter un chalet, ça coûterait trop cher d'électricité. Un chalet dans lequel je vais 40 jours, mais que je chauffe à l'année, non, ça me coûterait trop cher. T'entends jamais ça. Je chaufferais pas ma piscine, ça coûte trop cher, t'entends jamais ça. L'électricité, c'est pas juste un bien de base, c'est aussi un bien de luxe. Et si tu la mets le prix trop bas, les gens consomment trop. Or, on a l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Il y a peut-être Winnipeg qui est un petit peu moins cher que nous, à peine moins cher. Puis aussi, c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les commerces, tu sais. Les commerces climatisés à grandeur, les portes ouvertes en été, toi, tu passes devant le commerce, c'est froid. Voyons donc, Simonac.
C'est la canicule, Luc, c'est la canicule.
Ouais, c'est ça, ben ça aide. Mais en arrière, par contre, tu commerces avec les machines qui envoient de la chaleur, là, il faut que tu passes devant le commerce, pas derrière le commerce, parce que là... Donc, toujours est-il que on en dépense de l'énergie, on est les plus gros consommateurs d'énergie au monde. Fait que si ces prix sont trop bas, on va continuer de cette façon-là. Donc, moi, que ça soit l'inflation, je suis d'accord. Je suis d'accord, par exemple, de ce que le rappel historique que tu fais avant la Régie d'énergie calculait tous les coûts d'Hydro-Québec. Et là, il disait, OK, vous avez des taux d'intérêt qui ont beaucoup baissé. La facture doit baisser. Elle doit pas être à l'inflation. La moitié des tarifs, du prix de l'électricité au Québec, c'est des taux d'intérêt. Avec des taux d'intérêt presque nuls, on devrait avoir une facture plus basse. Mais cette idée-là a été battue en brèche par Legault, alors qu'il avait dit qu'il ferait le contraire. Legault est arrivé au pouvoir en disant, il y a eu du trop perçu. Puis je vais vous le remettre dans les poches. Mais en même temps...
Ça s'est fait, là. La facture a diminué. Là.
Ouais. C'est-à-dire que...
T'as pas eu de chèque, mais la facture a diminué.
Il y a une nuance intéressante. C'est que quand les fonds d'Hydro-Québec augmentent trop, il y a une obligation de réduire le tarif inhérente à la loi sur Hydro-Québec. Et cet argent-là, il sera retourné dans les poches d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, en disant « je vais retourner l'argent dans les poches des Québécois, mais dorénavant, ça va être à l'inflation », il a donné toute une go à Hydro-Québec. Là, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je suis pas contre l'idée qu'ils fassent beaucoup d'argent.
Mais non,
je
parce que Hydro-Québec verse des redevances, ça nous permet de payer nos programmes sociaux. Mais il y a un phénomène, Luc, qui est palpable depuis quelques années. On a des gens qui gagnent 20-25 $ de l'heure puis qui n'arrivent pas. Écoute, il y a une auditrice qui s'appelle Valérie, pour ne pas la nommer.
Pas la mairesse.
Non, pas la mairesse. Une autre Valérie qui dit, moi, je gagne 20 $ de l'heure. Mon conjoint travaille. On a deux enfants. J'ai une vieille voiture que je ne peux pas changer. Là, je sais plus où couper.
C'est vrai.
C'est l'épicerie qui augmente. C'est Hydro qui augmente. Là, tenez-vous bien, là. Probablement que le prix de certains vêtements va augmenter parce que le prix du coton augmente. Le prix des conteneurs qui partent de l'Asie font en sorte que ça, il y a vraiment une poussée inflationniste à la hausse. Et parallèlement à ça, tu as des taux d'intérêt hyper bas. Fait que c'est un phénomène assez spécial qui se passe dans notre société. Mais moi, ce que je remarque, c'est que actuellement, les salaires ne sont pas assez élevés. Ce phénomène-là, il y a peut-être 5 ans, on ne le voyait pas. Là, il est plus palpable. Là, que des gens te disent à 20-25 $ de l'heure, je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui se passe dans notre société.
Je te rappelle qu'il y a eu un débat sur le salaire minimum. Oui. La FTQ proposait 15. Après ça, ils sont revenus. Ils disent non, ça prend 18 parce que c'est 18 le minimum pour sortir la tête de la pauvreté. Et on disait, ben non, 15 c'est trop, 18 c'est trop. Mais là, je pense que tu corrobores en disant pour beaucoup de familles, en tout cas une famille avec un salaire à 18 $ de l'heure, t'es en dessous du seuil de pauvreté. Deux salaires à 18 $ de l'heure, tu es tout juste au niveau du seuil de la pauvreté.
Mais prends l'exemple d'aller souper en famille de 4 dans un restaurant comme Saint-Hubert ou un autre, là, tu une bannière.
Ça coûte, ça.
Pas de luxe, là. On parle pas d'une affaire, là. Ça coûte cher. Moi, j'ai des auditeurs qui m'écrivent puis qui disent, puis je comprends, là. Les denrées coûtent plus cher. Le personnel, t'es obligé d'augmenter aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact. Mais quand tu payes les taxes, le pourboire et tout ça, c'est un vendredi soir qui te coûte cher.
Ben, ça coûte quoi? Ben, 125 $ pour un
pas d'alcool, là.
Pas d'alcool. Ajouter à ça, tu veux sortir le cinéma. Tu sais, tout coûte plus cher. Alors, c'est sûr que le gouvernement, moi j'ai aimé hier, j'ai beaucoup aimé que François Legault verbalise cette détresse que vivent de plus en plus de gens. C'est sûr que si t'es pas endetté, Luc, si t'as ta maison payée, si ta voiture est payée, ça va bien. Pour les familles n'ont pas de dette, il y en a qui réussissent à épargner.
Nathalie, on fait un deal d'abord. Il faut trouver une manière, parce que Hydro-Québec, c'est un tarif universel pour tous les Québécois, quel que soit, ça a été fondé sur cette base-là, quelle que soit leur position géographique et leur consommation. La consommation, ça augmente évidemment en fonction du nombre de kilowattheures, mais il faut trouver une façon de faire payer ceux qui sont capables de payer. Parce que si on dit on va garder les tarifs bas pour qu'il y a des familles qui doivent arriver, mais pendant ce temps-là, il y en a des gens qui se construisent des méchantes cabanes.
Mais Luc,
il n'y a pas juste les méchantes cabanes. Au Québec,
juste pour vous donner un peu, comme on dit, du gaz, là, les chiffres viennent de sortir. L'inflation au Canada, 4,4 en septembre, un record depuis 2003, et au Québec, 5,1.
Imagine, c'est énorme,
Ça vient juste de sortir.
Donc, ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt.
Ça confirme qu'il y a une tendance assez lourde là, qui semble s'installer. C'est en avril 2021, 3,4 %. Là, tu viens d'annoncer 4,4 au Canada, 5,1 au Québec. Luc, l'enjeu, c'est pas tant l'enjeu du tarif d'Hydro. Hydro-Québec, l'augmentation de presque 3 %, ça représente sa valeur de symbole. Ce qui est difficile pour les gens, c'est que c'est tout ce qui s'ajoute. Et puis l'autre réalité, c'est qu'il n'est pas rare de voir des gens occuper deux emplois pour arriver à boucler leur fin
de mois. Oui, mais c'est toujours référence au même groupe, aux gens qui en arrachent. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui en arrachent. Il y a tellement de Québécois qui en arrachent pas. Il y a
70% des Québécois gagnent 50 000 $ et moins.
Attends, on parle des revenus. Il y a 3,6 trillions de dollars en héritage parce que les baby boomers vont mourir dans les prochaines années. Une augmentation de la valeur des maisons extraordinaire qui a permis aux gens d'avoir des marges de crédit. Une augmentation des loyers extraordinaire. Piketty, le grand économiste français, il dit maintenant c'est plus juste le revenu, c'est le patrimoine. Le patrimoine des Québécois a beaucoup augmenté. Je veux bien, moi, qu'on mène des tarifs d'électricité bas pour les Québécois qui en arrachent, mais surtout pas bas pour le reste des Québécois.
Mais n'oublie pas que c'est les enfants des boomers qui vont toucher l'héritage de
tout. Mais eux autres qui payent l'électricité.
Calme-toi, là.
On s'arrête là-dessus.
C'est 23.